Les dormeurs du Louvre. Il fait froid, il pleut, les passants circulent rapidement et les promenades sont vides et désolées. C'est en des jours pareils que la grande et croissante armée des va-nu-pieds, des meurs de faim, des sans-dents, épaves des grandes villes qui s'appellent les ouvriers sans travail, c'est un hiver, dis-je, que ces malheureux sont surtout à plaindre. En été, la nature clémente leur offre ses compensations, les bois sont à tout le monde. Et les bancs des boulevards sont des lits suffisants pour qui ne craint pas de dormir à la belle étoile. La Seine leur fournit, gratis, des bains réparateurs. Les jours sont longs, et il est rare qu'ils ne s'y rencontrent pas une bonne aubaine. Mais l'hiver, que faire? Où se réfugier? Où dormir? C'est alors que les églises sont visitées par des fidèles d'un nouveau genre, et les musées par d'étranges amateurs. La plèbe loqueteuse connaît les bons endroits. Elle sait que le Suisse de telle église est débonnaire, et l'on voit les pauvres gens entrer, furtifs, baissant la tête sans avoir l'air de se connaître, dans le vieil édifice, s'asseoir sans bruit autour des piliers, dans les angles les plus obscurs, les plus écartés. Ils restent là 1 heure, 2 heures, 1/2 journée, le plus longtemps possible, il fait si bon près des bouches du calorifère. Ils y restent jusqu'à ce que la faim les chasse, ou que les portes de l'église s'ouvrant pour quelque cérémonie, le Suisse leur dise « Déguerpissez !» Que leur importe d'ailleurs les messes basses du matin, les prônes, les catéchismes, tous les actes du culte qu'on célèbre là. Ils n'y viennent ni pour l'autel, ni pour le prêtre, uniquement pour le calorique. Quand les églises leur sont fermées, les truands modernes se rabattent sur les musées. Craignant d'être refusés à l'entrée, on les voit au préalable se passer la main dans les cheveux, arranger leurs casquettes ou leurs chapeaux crasseux d'une façon décente, boutonner leurs habits pour cacher l'absence de linge, puis rapide passer devant les huissiers. La bataille est gagnée, ils sont dans la place. Mais une fois là, que de tactique, que d'habileté pour s'y maintenir. Ayant roulé toute la nuit, les pauvres hères ont sommeil. Ils cherchent une banquette isolée et les coudes sur les genoux, ils s'endorment. Au-dessus d'eux flamboient les chefs-d'œuvre de l'école florentine ou flamande ou espagnole. Ils s'en soucient bien, vraiment. Dormir, dormir tranquille, tel est leur unique objectif. Et ils dorment, jusqu'à ce que l'huissier, les secouant vivement, les réveille en sursaut. « Circulez, circulez, on ne dort pas ici !» Ces parias de la civilisation moderne sont à la fois une honte et un danger pour elle. Une honte car il prouve bien l'impuissance des lois sociales à guérir la misère et à extirper le vice. Jamais il n'y a eu tant de déclassés que de nos jours, jamais tant de misérables ne furent réduits à l'abrutissement ou au désespoir. Un danger car s'il est parmi ces hommes beaucoup d'êtres inoffensifs, plus malheureux que méchants, et dont le seul tort est d'être incapable, il en est aussi d'habiles, de vindicatifs qui sentent s'amasser en eux d'implacables rancunes contre la société cruelle et égoïste qui les abandonne à eux-mêmes. Parmi ces pauvres gens, il en est qui ont vu de meilleurs jours et qui subissent des malheurs immérités. Nous avons connu, il y a quelques années, un jeune homme qui avait vainement battu le pavé de Paris pour chercher un emploi. Après avoir, pendant quelques jours, profité des asiles de l'hospitalité de nuit. Un soir, il entra par hasard avec une bande de déguenillés comme lui dans une salle de réunion populaire. Sans doute, l'attrait du poêle et de la chaude lumière du gaz fut pour quelque chose dans sa décision. Un orateur évangélique parlait justement de la bonté de Dieu pour ses créatures. Il disait quelque chose comme ceci. « Vous êtes tous ici pauvres comme Job, et moi qui suis presque aussi pauvre que vous, je ne puis vous soulager. Mais écoutez-moi bien. Je vous donne ma parole qu'aucun de vous, si coupable qu'il ait été, si bas tombé qu'il soit à cette heure, et si dénué de tout qu'il puisse être, ne priera Dieu de le secourir sans être exaucé. Comment il vous délivrera, je n'en sais rien. Mais à coup sûr, si vous vous adressez à lui avec foi, il vous entendra. » Notre jeune homme prit ses paroles à la lettre. La réunion terminée, il erra toute la nuit, n'osant s'arrêter à cause du froid et priant Dieu du fond de son âme. Jamais, a-t-il dit plus tard, je n'ai passé une nuit si heureuse. J'avais le sentiment que Dieu m'entendait et que tous mes malheurs allaient prendre fin. il se présenta le matin dans une maison où on lui avait dit de revenir, et il fut agréé comme employé. Il y a quelque temps, celui qui écrit ces lignes voyait entrer dans une salle de réunion évangélique un charmant jeune couple. À la fraîcheur de leurs habits et surtout à la joie de leurs regards, on devinait des nouveaux mariés. « Me reconnaissez-vous ? » dit le jeune époux. « Non, monsieur. Eh bien, c'est moi qui... » Et ici se plaça l'histoire ci-dessus. « Et voilà ma femme. Nous sommes mariés depuis 2 mois et nous gagnons bien notre vie. Voyez-vous, monsieur, je n'ai jamais oublié cette nuit-là. Je tiens à le dire devant tout le monde. Dieu entend et exauce les prières qu'on lui fait. Lui avez-vous demandé la chose suprême ? Demandai-je. Le visage de mon ami rayonna. Oui, monsieur, et je l'ai reçu. Je suis chrétien. Dieu m'a sauvé par Jésus-Christ. En parlant ainsi, il regardait sa compagne, qui l'approuvait d'un regard souriant.